Avant d'accueillir Alexandre pour les infos de 23h, on accueille Cyril au 39-21. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Monsieur Delacroix.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Cyril et quel âge avez-vous ?
J'ai 58 ans et je vous appelle de Saint-Nazaire.
D'accord. Alors on a une petite minute 30 avant d'accueillir l'info sur Europe. Qu'est-ce qui vous amène Cyril ? Dites-moi.
Eh bien écoutez, tout d'abord je voudrais vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année.
Merci beaucoup.
Voilà, j'amène un combat depuis 20 mois pour pouvoir avoir des droits sur ma fille qui a 7 ans et demi que je n'ai pas vue depuis presque un an. Je me bats contre mon ex-belle-famille qui a ourdi un complot en utilisant la vulnérabilité de mon ex-compagne. Elle est très influençable et manipulable.
D'accord.
Nous avons été séparés par sa famille qui a préparé longtemps à l'avance, et sa famille sont des gens très riches et très connus sur la Baule, qui connaissent également les magistrats, la police, qui à l'aide de ces magistrats nous ont séparés, m'ont incriminé, m'ont condamné même pour des harcèlements contre mon ex-compagne. Et depuis près de 20 mois, toutes les plaintes de mon ex-compagne sont étudiées sous 8 jours et aucune de mes plaintes n'ont été étudiées à ce jour.
Alors, on va bien évidemment développer, hein, Cyril, et vous allez m'expliquer ça dans le détail. On va remonter un peu le temps et on remontera au moment de cette séparation et comment, visiblement, votre ex-belle-famille a monté toute cette stratégie pour vous séparer, tous les deux.
Oui.
Mais en attendant, on laisse l'info, place à l'info sur Europe 1, et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
Europe 1. La Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Libre Antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire vos SMS au 7-39-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace comme Charles, comme Patrick le routier, comme Annie, comme Yvette, comme Maya, Charlotte le font ce soir. Merci pour votre fidélité. Vous avez été assez nombreuses et nombreux à commenter le passage de Joël, de Marie-Jo, pardonnez-moi, pas de Joël, de Marie-Jo, qui témoignait sur une maladie de Parkinson apparue il y a 4 ans exactement, et qui est parfaitement maîtrisée pour l'instant pour Marie-Jo, et qui, pour le moment, va garder ça pour elle et ne va pas inquiéter ses enfants ou son entourage. Vous êtes plusieurs à noter que Marie-Jo fait preuve tout de même d'un grand courage, et c'est vrai. Bravo à vous Marie-Jo, et merci pour votre fidélité aussi à la Libre Antenne d'Europe 1. Nous sommes avec Cyril. Cyril, vous nous avez expliqué brièvement donc ne plus voir votre enfant de 11 mois depuis 20 mois, puisque... Non, votre fille a 7 ans et demi, pardonnez-moi, hein, c'est ça ?
Ma fille a 7 ans et demi.
Votre fille a 7 ans et demi, et ça fait donc depuis 11 mois que vous ne l'avez pas vue.
Oui, aucune nouvelle, aucune photo. Les seules photos que j'ai sont celles que l'école m'ont fournies lors de la photo de classe au mois de novembre dernier. Et donc je n'ai pas eu ni au téléphone, ni vu, ni entendu, ni embrassé depuis 11 mois et demi.
D'accord. Alors, on va remonter un petit peu le temps, hein, ensemble.
Oui.
Tout d'abord, vous étiez mariés tous les deux ? Vous étiez paxés ?
Non, non, on vivait en concubinage.
Depuis combien de temps étiez-vous ensemble ?
J'ai rencontré mon ex-compagne quand elle habitait Paris et moi dans l'Aveyron, il y a environ 12 ans et demi.
D'accord.
Dans le passé, si vous voulez, reprises, sa famille a essayé de nous séparer. Une première fois, sa tante, quand nous étions à Paris, et que mon ex-compagne décidait de déménager avec moi dans l'Aveyron, sa tante, n'ayant plus de prise sur sa nièce, a essayé de nous séparer. Ça n'a pas duré plus d'un jour. Mon ex-compagne a finalement décidé de déménager avec moi. Ensuite, nous sommes allés dans l'Aveyron, où je louais une maison dans la campagne. Sa mère, qui ne voyait pas ça d'un bon œil, est venue en vacances dans l'Aveyron. Et puis, en profitant d'une journée où j'étais parti aux champignons, a réussi à convaincre, vu que mon ex-compagne est très vulnérable et très influençable, à partir, à prendre le peu d'affaires qu'elle avait amené avec elle, et à partir. Et a demandé l'intervention de la gendarmerie de manière à ce qu'ils puissent récupérer leurs affaires. Et quand je suis revenu à la maison, il n'y avait plus personne.
Mais dites-moi, votre ex-compagne, comme ça, sa tante arrive, elle lui demande de plier ses affaires, elle s'en va comme ça sans...
Sa mère, c'était sa mère.
C'était sa mère. Et sans... Oui. Il y avait des problèmes entre vous que...
Non, 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 du tout. Je sortais d'une grave opération du dos... et j'étais alité, j'avais beaucoup de mal à me déplacer. Non, tout allait très bien, on s'aimait. Elle est venue en vacances, en l'espace d'une semaine. Elle était d'abord au camping, ensuite elle m'a demandé si gentiment je pouvais l'héberger parce que j'avais plusieurs chambres à la maison. J'ai dit oui, aucun souci. J'avais de très bons rapports avec sa mère. Et, quand je suis revenu des champignons, ma femme avait disparu. Et ensuite, elle m'a envoyé des SMS pour me dire voilà, c'est fini entre nous. Et au bout d'un mois, un mois et demi à peu près, à force de se parler, par le biais de MSN à l'époque, ma compagne m'a dit « Écoute, je vais revenir à la maison si tu veux toujours de moi », et elle est revenue. Ensuite, nous avons vécu dans l'Aveyron pendant un an et demi encore, et puis sa grand-mère, qui l'avait en partie élevée avec sa tante, avait eu un AVC. Et ma compagne me dit « Écoute, voilà, j'aimerais pouvoir me rapprocher de la boule parce que pour moi, ma grand-mère, c'est comme ma seconde maman. Est-ce que tu accepterais qu'on laisse sa maison? On ne pourrait pas louer plusieurs biens à la fois. Tu gagnes pas grand-chose et moi non plus. » Puis écoute, même si ces maisons font des bois, une roulotte ou n'importe où ailleurs, je t'aime. Pour moi, c'est plus important. Donc, on a pris le peu d'affaires qu'on pouvait dans un 20 mètres cubes, malgré que j'en avais davantage. Le reste, je l'ai laissé à la propriétaire qui était une amie. Et nous sommes partis à la Baule, dans un premier temps, pendant 5-6 mois chez sa mère, le temps de trouver une location. Puis sa mère a trouvé une location et a tenu à payer elle-même la location, de manière à ce que je n'apparaisse pas sur le bail, comme si j'étais hébergé.
Vous avez accepté?
Là-dessus, nous avons redéménagé un an après dans une petite maison un peu plus confortable sur la commune de Guérande qui jouxte la Baule.
Oui.
Et nous avons vécu heureux dans cette petite maison jusqu'à ce que, à force de persévérer, nous avons eu un enfant, notre fille Mewen, qui est née le 18 juillet 2014. Et lorsque Mewen avait environ 7-8 mois, sa mère, à nouveau, a profité du fait que je recevais deux amis à la maison pour des vacances, qui habitaient loin, dans le Tarn et l'autre à Paris, pour persuader ma femme de partir de la maison avec notre fille, en appelant les forces de l'ordre, bien entendu.
Mais en appelant la gendarmerie pour dire quoi? Pour raconter quoi aux gendarmes? Parce que...
Je m'alcoolisais avec mes amis, que ma femme n'était pas en sécurité à la maison, que je ne m'occupais pas bien de ma fille, alors que à la maison, c'était principalement moi qui changeais ma fille. J'ai un enfant qui a 30 ans, dont je me suis entièrement occupé de l'âge de 7 ans et demi, 8 ans à l'âge de 19 ans. Je me suis toujours investi pour mon fils, donc je savais changer un enfant. À la maison, c'était moi le cuisinier, le pâtissier, le chauffeur, le jardinier. Donc, je m'occupais beaucoup de ma fille. Mais voilà, sa mère lui a dit « Écoute, laisse-le tomber, il ne fera jamais rien de bien, il ne travaillera jamais, il est malade. » Et ma compagne, qui, comme je vous le dis, est très influençable, a suivi sa mère et au bout d'une petite semaine à peu près, j'étais bien entendu interdit de séjour chez sa mère. Une petite semaine après, ma femme est revenue à la maison en me disant « Pardonne-moi, j'ai écouté maman, mais tu t'occupes bien de Mewen, on s'aime, tu n'as jamais été violent ni méchant envers moi. Elle m'a monté un peu la tête et voilà, je voudrais continuer à vivre avec toi. » Et quand ma fille a eu 3 ans et demi, 4 ans à peu près, sa mère nous a dit « Voilà, je suis tellement heureuse d'être grand-mère, je vais vous acheter une maison. » Donc on a commencé à chercher à droite et à gauche une maison, le budget étant délimité par sa mère qui est donc très très riche sur la boule. Et elle a donc acheté cash une maison, celle dans laquelle j'ai été expulsé. Donc elle a acheté une maison. Et le soir où on a reçu les clés, elle m'a dit « Écoutez, voilà, je suis tellement heureuse d'être grand-mère, j'offre cette maison à votre compagne et uniquement à elle. Je ne veux pas que vous soyez sur aucun papier de cette maison parce que je ne veux pas que votre fils puisse prétendre à une quelconque part le jour où vous allez mourir. Et j'achète donc cette maison. Si toutefois un jour il vous arrivait de vous séparer avec ma fille, quelle que soit la raison, j'ai suffisamment de biens et de relations pour vous reloger, pour trouver une solution. On tape dans la main. Dans ma famille, quand on tape dans la main, ça vaut parole d'or. Mon ex-belle-mère m'a tapé dans la main. Elle m'a dit voilà. Par ce geste symbolique, mon père faisait des affaires dans tout la Gaule en tapant dans la main, ça vaut parole d'or. Ma femme m'a dit « Écoute, je ne te tape pas dans la main, je te donne un baiser les yeux dans les yeux, tu peux avoir confiance en maman. Si toutefois il nous arrivait quelque chose tous les deux ou qu'on venait à se séparer pour une raison ou pour une autre, tu peux avoir confiance en elle, jamais elle te fera de vilaineté, quoi. » Et puis donc... En été 2019, nous étions sur la plage avec ma femme, ma fille, sa mère et sa tante. Et sa tante se permettait sans arrêt, elle était omniprésente dans notre couple. J'ai dû faire à peu près plus de 5000 photos et plus de 1700 vidéos de ma famille avec un caméscope. Et sur les trois quarts, la tante est omniprésente dans notre couple. Et cet été-là, en 2019, sa tante se permettait de donner des ordres à ma fille et à mon ex-compagne devant moi. Et j'ai pété un câble. Je lui ai dit « Écoutez, Martine, maintenant, il y en a marre. Vous êtes omniprésente dans notre couple. On ne peut pas faire un pas sans vous avoir dans les pieds. Votre sœur, c'est un peu pareil, mais elle est un peu plus réservée. Elle nous laisse un petit peu plus tranquille. Je ne veux plus vous voir. Vous avez un petit-fils maintenant, occupez-vous-en. Vous avez une trop grande implication dans mon couple, dans les décisions de mon couple, dans l'influence que vous avez sur mon ex-compagne et sur ma fille surtout. Je ne veux plus vous voir. » Et là, elle m'a dit « Écoutez, Cyril, va vous arriver quelque chose bientôt. Vous ne vous en relèverez pas. Rappelez-vous ce que je vous dis. » Et donc, la crise du Covid est arrivée. Je me soigne pour une longue maladie du foie. J'avais une hépatite B, une hépatite C suite à une transfusion de sang qu'on a découvert trop tard. Elles étaient toutes les deux chroniques. Du fait d'une de soins importants et de doses multipliées par deux par interféron, on a réussi à enrayer l'hépatite C. Mais l'hépatite B est restée, et c'est une hépatite B maintenant un virus sauvage du fait du mélange des deux. Et elle détruit mon foie inexorablement. On s'est renseigné pour avoir une transplantation, mais ce n'est pas possible du fait que la maladie réside dans mon sang. Donc la médecine ne fera pas une transplantation de foie en sachant pertinemment que le foie se dégradera à nouveau. Mon fils était donneur avec le même groupe sanguin, donc c'était pas possible. Mon foie actuellement est en cirrhose. Il ne synthétise plus que 20 ou 25% de ce que je mange. On me prescrit des liquides alimentaires médicaux parce que ouais, la situation est grave, on va dire. J'ai beaucoup de mal à le vivre. Et quand le Covid est arrivé, je ne veux pas dire que j'ai une intuition, mais j'ai vu que cette pandémie, enfin, qui n'en était pas une à l'époque, allait devenir grave. quand je chope la grippe, malgré que je me vaccine contre la grippe, quand je chope la grippe, ça va sur une pneumopathie qui dure 6 ou 8 mois. Donc, quand j'ai vu ce virus arriver, j'ai dit, voilà, il faut vraiment s'en prémunir. La loi nous donnait la possibilité de ne pas envoyer notre enfant à l'école parce que c'est pendant le couvre-feu, le couvre-feu, les premiers couvre-feux. Et d'un commun accord avec ma compagne, on a été à l'école et en disant, voilà, pour éliminer tous les risques, on va plus envoyer notre fille à l'école. Que dire ? Pendant cette pandémie, donc, notre fille était à l'école. Mon fils, lui, était dans un mauvais pas. J'ai demandé à mon ex-compagne d'accepter qu'on puisse héberger notre fils, mon fils, le temps de trouver une solution plus acceptable pour lui. Je précise que nous avons un compte bancaire en commun. Le compte bancaire est à son nom, à elle. Mais ma solde d'adulte handicapé, depuis tout le temps, depuis le début, est virée sur son compte. Quand on a eu notre enfant, l'allocation jeune enfant payée par la CAF est virée sur son compte. Et c'est à ce moment-là que la CAF a en même temps décidé d'elle-même de virer mon AH sur le compte de mon ex-compagne. Ce qui fait que comme nous nous aimions et que toutes les charges étaient payées avec son compte, j'ai trouvé plus simple de ne rien faire et de laisser mon AH virer sur ce compte bancaire. Donc elle m'a donné sa carte bleue avec gentillesse pour payer les autoroutes et autres. Je suis allé chercher mon fils. Quand je suis revenu avec mon fils et ses affaires, elle a lavé la totalité de ses vêtements et nous avons habité à 4, puisque ma fille, ma femme, mon fils et moi, dans la maison. Ça se passait très très bien. Et puis, Pâques est arrivé, ça s'est bien passé également. Et puis, lorsque l'école, au début de juin, ma fille avait pris du retard à l'école. Elle est un petit peu, elle a beaucoup de mal, si vous voulez, à comprendre les cours, à être à l'école. Donc, ma compagne m'a dit, écoute, est-ce que tu serais d'accord pour que pour les 15 derniers jours de juin, plutôt que qu'elle manque l'école, qu'elle ne voit plus ses petits camarades et autres, est-ce que tu serais d'accord que pour les 15 derniers jours de juin, je parte avec Mewen chez ma mère, qui, elle, n'a pas les comorbidités que tu as et qui accepte de me recevoir. J'ai dit, écoute, il n'y a aucun souci. Pour les 15 derniers jours de juin, si ça peut aider Mewen à passer dans la classe suivante l'année prochaine. On respectera ensuite une petite semaine de quarantaine et puis tu reviendras à la maison. Et puis après, j'espère que la pandémie se calmera ou qu'on trouvera une solution de vaccin ou autre. Et donc, ma compagne est partie le 12 juin 2020 chez sa mère. Et je ne reverrai plus ma fille. Je ne reverrai plus ma fille en hébergement, je veux dire, à la maison, comme avant, en couple. Mon ex-compagne est revenue quelques fois à la maison pour prétexter, prendre des affaires, pour nous aimer intimement, pour nous embrasser, pour manger tous les deux de temps en temps, sans respecter vraiment la quarantaine. Mais bon, voilà, j'aimais tellement ma femme. De temps en temps, j'allais devant chez eux pour voir ma fille et l'embrasser rapidement et repartir. Et le 11 juillet, j'ai reçu une lettre recommandée avec accusé de réception digne d'une lettre de licenciement de ma compagne qui, par la suite, lors d'un rendez-vous, on va dire intime et à l'insu de sa famille, m'a confié que cette lettre de séparation lui avait été dictée par sa tante et par sa mère. Que sa tante avait cru bon de préciser sur la lettre de séparation que toute cohabitation n'était pas possible, de manière à ce que sa mère puisse m'expulser de cette maison, contrairement donc à la parole qu'elle avait donnée 3 ou 4 ans auparavant. Et donc j'ai reçu cette lettre recommandée qui me demandait de partir au plus tard, le 31 août, de cette maison, donc de chercher quelque chose pour moi. Alors j'ai bien entendu essayé de... J'ai bien compris que ma compagne était une fois de plus manipulée par sa famille. Je lui ai dit, écoute Gwen, c'est vraiment pas possible, on s'aime. Elle m'a dit, oui, mais j'y peux rien, je peux pas t'expliquer tout, mais j'y peux rien, c'est comme ça, on trouvera une solution, on s'en verra en cachette. c'est comme ça. Et donc, j'ai donc été...
C'est comme ça, mais... elle n'est... Pardonnez-moi, mais votre femme, elle ne prend pas beaucoup de décisions dans tout ça. Elle est manipulée
non.
ou elle est...
Oui.
Elle est un petit peu faible comme ça, de caractère. Comment
oui,
la définiriez-vous?
Oui, elle est faible de caractère, effectivement. Quand sa mère dit quelque chose, elle ne dit rien, elle obéit comme une gamine de 6 ans.
D'accord.
Et quand on m'a expulsé de cette maison, on ne m'a bien entendu pas rendu la moitié du compte bancaire. Le compte bancaire était créditeur d'un solde de près de 7000 euros. Donc, je venais de recevoir 3 mois auparavant un rappel de la CAF sur mon AH de 3700 euros que je peux prouver. Et j'ai également des preuves que 3 mois avant cette lettre de séparation, la mère de ma compagne avait contacté ma sœur qui me déteste cordialement, que je n'ai pas revue depuis 7 ou 8 ans, enfin que je n'avais pas revue depuis 7 ou 8 ans, en demandant de fausses déclarations. En demandant de à l'avance, si vous voulez, des preuves comme quoi j'étais un pauvre type, un drogué, un alcoolique, un sale caractère, que j'étais méchant.
Vous n'avez aucun problème d'alcool, Cyril?
Non.
Rien.
Non, avec aucun... la maladie que j'ai.
Tout va bien. Oui, le foie, il vaut mieux éviter, bien évidemment,
d'avoir
de l'alcool.
Je n'ai de toute façon jamais bu de ma vie, à part peut-être à Noël ou Nouvel An ou à mon anniversaire, une bonne bouteille de Bordeaux et avec modération. Mais sinon, non, je ne bois pas d'alcool. Je n'en ai jamais bu, je ne supporte pas. Et en plus, je ne supporterai pas de conduire ou de vivre sous l'empire de l'alcool. Je ne me drogue pas non plus. Je ne veux pas dire que je n'ai pas de vice, mais je n'ai ni la drogue ni l'alcool comme vice dans ma peau. Et donc, cette lettre de séparation, cette preuve, je veux dire, de ma sœur, a été faite 3 mois avant notre séparation. J'en ai la preuve, bien entendu. J'ai dans le dossier de séparation, mon ex-compagne, sous les ordres de sa famille, a donc fourni cette lettre de ma sœur, Muriel, contre qui j'ai porté plainte, du reste, seulement cette année. Parce que depuis toute cette mascarade, si je puis dire, ce complot, aucune de mes plaintes n'ont été instruites, enregistrées ou quoi que ce soit à La Gaule ou à Saint-Nazaire. Jamais une seule de mes plaintes n'ont été prises. Et cet été, quand j'étais sur Saint-Nazaire depuis un certain temps, j'ai eu l'envie de... Je me suis dit, tiens, le culot, ils ne me connaissent pas dans ce commissariat, je vais aller voir. Et j'ai été reçu par une dame en lui montrant des preuves de la maman de mon fils de 30 ans qui disait que je n'avais jamais été violent, que je n'avais été jamais méchant. Ma sœur Muriel, dans la lettre qu'elle avait faite à ma belle-mère, disait que j'avais été violent avec la mère de mon fils. Quand la mère de mon fils a su ça, j'ai heureusement gardé de bons rapports. Elle m'a dit non, je vais te faire une lettre pour prouver le contraire, c'est pas vrai. Ce qui est dit sur cette lettre est mensonger. Donc avec cette lettre, je suis allé au commissariat et le commissariat avait réussi à prendre une plainte en disant oui, c'est des fausses déclarations, de la diffamation et une vengeance de votre sœur. Effectivement, on peut prendre cette plainte. Ce qui fait que cette plainte a été prise, mais à ce jour, depuis maintenant 6 ou 7 mois, je n'ai aucun retour sur cette plainte. Il y a également une deuxième et unique plainte qui a été prise en compte, c'est je vais quand même finir, parce que sinon je vais m'éparpiller. Donc quand j'ai été expulsé de cette maison, j'ai été expulsé sans qu'on me rende la moitié du compte bancaire, sans qu'on me rende mes vêtements, sans qu'on me rende les sièges arrière de ma voiture, sans qu'on me rende les meubles, sans qu'on me rende mes papiers. Et le 31 août, je voulais carrément prendre ma voiture, c'est le seul bien qui m'appartient en bien propre avec la carte grise, mettre un matelas dedans et puis aller crever quelque part, vivre dans ma voiture. Mon ex-compagne m'a donné alors un rendez-vous avec la petite dans un parc en pleurant, en me disant « Cyril, non, ne pars pas de la maison. Si tu vas habiter dans ta voiture, tu vas mourir avec la maladie que tu as. C'est pas possible, reste dans la maison. » Donc d'un côté, elle me faisait donc cette lettre de séparation en me disant de partir au plus tard le 31 août, puisque cette lettre qui avait été dictée par sa famille. D'un autre côté, paradoxalement, elle-même, de son côté, chercha des tas de solutions de relogement, mais avec une soldat du handicapé, pas de garant, pas d'amis, c'est pas facile à trouver. Donc je suis resté dans cette maison jusqu'au 14 novembre. Le 14 novembre, j'ai trouvé une place en chambre d'hôte avec une dame gentille qui acceptait de me prendre en chambre d'hôte. Donc j'ai pu emmener, un dixième de mes vêtements d'hiver, puisqu'on approchait de l'hiver. J'ai laissé mes serrières de voiture dans la maison de mon ex-compagne en pensant que j'allais pouvoir revenir comme tout couple qui se sépare dans notre maison, enfin dans sa maison, puisque c'est sa maison, pour reprendre des affaires. Mais non, je n'ai jamais pu reprendre de vêtements, d'affaires et autres.
Comment vous en a-t-on empêché Comment vous en a-t-on empêché de reprendre vos affaires?
Ben, tout simplement le 14 novembre, quand j'ai rendu les clés de la maison, une procédure d'expulsion avait déjà été mise en route par sa mère. Il faut savoir que, bizarrement, mon ex-compagne, sa famille a beaucoup, beaucoup d'argent, sa mère a énormément d'argent pour pouvoir payer une maison cash à la Gaule. C'est très, très cher, c'est plus d'un demi-million, demi-million cash qu'elle a payé.
Sans donc que vous soyez sur... Les papiers, voilà. Donc vous n'existez pas dans cette maison.
Exactement. À un moment donné, mon ex-compagne m'a fait une attestation d'hébergement parce que j'en avais besoin pour les impôts, de manière à ce que mes impôts soient domiciliés dans cette maison, de manière à ce que, officiellement, je puisse recevoir mon courrier pour voter ou ces choses-là. Mais non, je n'avais rien du tout. Et elle-même, elle n'est que usufruitière de cette maison. Elle a également un bien qu'elle a hérité de sa grand-mère où elle n'a que 1/5 du montant de la location de la personne qui se trouve dans cet appartement. Elle n'a absolument aucun bien en propriété. Sa mère, depuis que nous nous connaissons, lui verse une pension de 800 euros, qui bizarrement est presque équivalente à une solde d'adulte handicapé. Son cousin, par exemple, le cousin de ma compagne, a fait des déclarations à un ami à moi. J'ai rencontré un ami par hasard qui connaît ma belle famille. Et cet ami m'a dit un jour, écoute, ça me gêne de te dire ça, quitte à me fâcher avec toi, Cyril, mais Gwen a un trouble du comportement et de la personnalité. Il me dit, je peux te le prouver, son cousin m'a fait une déclaration le jour où il était un petit peu trop ivre. Il a dit, ben, Gwen, elle a été bercée trop près du radiateur, elle est handicapée mentale, mais de manière à transmettre le patrimoine financier et immobilier à une éventuelle héritière, on ne l'a jamais déclarée adulte handicapée parce que ça aurait été compliqué pour la transmission du patrimoine.
Donc, on va essayer de s'arrêter de faire un petit peu le point sur votre histoire. C'est que au final, tout réside là. C'est que visiblement, de ce que vous me dites ce soir, votre ex-compagne souffrirait d'une déformation mentale ou en tout cas d'un affaiblissement mental qui n'a jamais été diagnostiqué ou déclaré, qui ferait qu'elle est très manipulable par sa famille. Et
oui, pas que par sa famille. Quand j'ai rencontré mon ex-compagne,
on va rester, si vous voulez, parce qu'on n'a pas non plus toute la soirée, mon cher Cyril. Donc, on va essayer de se fixer sur ceux qui ont décidé de vous évincer. Mais avant, on marque une petite pause et puis on va faire le bilan après. A tout de suite. 23h30 pile sur Europe 1. Vous êtes sur la libre antenne jusqu'à 1h du matin et vous pouvez composer le 39-21 si vous souhaitez échanger avec nous tout à l'heure. Donc Cyril, en gros, votre femme, votre ex-femme a été manipulée. Et bon, j'entends complètement tout ce que vous me dites. Maintenant, il y a cet enfant. Lorsque vous vous séparez, contraint et forcé de votre ex-femme, votre ex-compagne, il y a cette petite fille au milieu. Il y a bien un juge qui a statué à un moment des affaires familiales sur le statut de cet enfant. Vous l'avez reconnu, justement. Cet enfant. Vous l'avez
bien
reconnu.
Entendu. D'accord. Bien entendu. Justement, elle porte mon nom et le sien. Et justement, mon ex-compagne a un avocat, et c'est le même avocat que sa mère. C'est-à-dire que sa mère lui a forcé de prendre le même avocat qu'elle, de manière à ce que sa mère puisse porter des pièces de notre séparation elle-même, dans son dos, plusieurs pièces que je contestais. Mon ex-compagne m'a dit, écoute, tu vas appeler l'avocat pour qu'il enlève ces pièces du dossier, c'est des mensonges, c'est pas bien, c'est pas la vérité. Ça n'a jamais été possible. Plusieurs fois, mon ex-compagne m'a dit, écoute, je vais demander à ce que maman te rende la moitié du compte et une liste de meubles. Je n'ai jamais eu cette liste de meubles, je n'ai jamais eu la moitié du compte. Donc le 14 novembre, elle a fait une lettre, mon ex-compagne a fait une lettre en attestant que c'est à sa demande si j'étais resté si tard dans la maison, parce que sa mère me réclamait une indemnité d'occupation illicite de sa maison. Je suis allé en chambre d'hôte, et entre le 17 et donc le 17 septembre 2021, non 2020 je veux dire, ils ont demandé un référé en prétextant que j'étais méchant avec ma femme et avec ma fille, référé qui était accepté par un juge aux affaires familiales. Et le juge aux affaires familiales a dit, écoutez, vous n'avez pas de toit sur la tête, vous aurez votre fille un samedi sur deux de 10h à 18h. Point. Une expertise psychologique sera demandée et nous reviendrons sur le fond pour décider une garde définitive de votre fille. Voilà en gros. J'ai bien fait savoir que on m'expulsait, qu'on ne me donnait pas la moitié du compte bancaire, etc. Elle m'a dit, écoutez, moi je juge sur une séparation conflictuelle en référé. Mmh. Maintenant sortez de mon tribunal où je fais appeler la sécurité. Entre le 17 septembre et on va dire le 15 janvier 2021, nous nous sommes vus en cachette à l'insu de sa famille pendant, je dirais, une soixantaine de rendez-vous. Ma compagne m'appelait la nuit quand sa mère dormait. J'ai une soixantaine d'appels de mon ex-compagne la nuit. J'ai plusieurs SMS, de mon ex-compagne qui me disait qu'elle m'aimait sincèrement parce qu'on venait d'être séparés. Et je voyais ma fille donc un week-end sur deux. Et à Noël, par exemple, quand je suis parti donc le 15 novembre, entre le 15 novembre et le 15 janvier, ma compagne me laissait sa maison ouverte, une clé cachée, dissimulée quelque part, pour que je puisse, par exemple, passer Noël seul dans cette maison. Elle m'a acheté un repas amélioré pour Noël. Quand j'ai déménagé à la chambre d'hôte, elle m'a accompagné avec des affaires en me donnant ses lunettes de vue, en me donnant des tas de petites choses, en me disant « ne dis rien à maman parce que sinon elle va me gronder ». Nous avons eu plusieurs rapports intimes, nous avons donc plusieurs rendez-vous en cachette. Nous utilisions ensuite, non plus son téléphone, mais ou WhatsApp ou mes messageries moi-même. J'ai donc inventé une adresse Facebook factice en m'appelant Jim Bain et une autre date de naissance, de manière à ce que sa famille ne voit pas la supercherie. Et ma compagne utilisait donc mes messageries, que ce soit Facebook, Gmail ou Hotmail, pour nous parler, pour nous envoyer en secret des petits messages, pour arranger nos rendez-vous en cachette de sa famille. Malheureusement, sa famille avait placé un mouchard sur le téléphone de mon ex-compagne, et c'est grâce à ce mouchard qu'ils ont vu qu'effectivement on se voyait en cachette. C'est grâce à ce mouchard qu'ils ont pu récupérer les mots de passe de mon Facebook, de mon Gmail, de mon Hotmail. Et sa tante, en début janvier, est venue depuis son domicile parisien avec son téléphone pour aller sur mon Gmail, Hotmail et Facebook pour effacer nos conversations compromettantes,
Donc c'est un gros sac de nœuds là. Donc en fait.
Et je l'ai prise sur le fait.
Bon.
C'est-à-dire que depuis mon ordinateur en chambre d'hôte.
Vous en êtes témoin, Cyril. Est-ce qu'il y a d'autres témoins de tout ça? Est-ce que des personnes ont été témoins de tout ça à part vous?
Oui, bien entendu.
Qui ça?
Des amis. Une amie Lydie, par exemple, qui me connaît depuis un certain temps, qui a été témoin de nos rendez-vous, qui a vu les SMS, qui a vu les mails et autres.
Donc, si je comprends bien, quand même, dans toute cette histoire, il y a donc un juge qui doit statuer sur la garde de votre fille à cette époque. Que rend-il comme jugement? Parce que le problème, c'est qu'il nous reste 5 minutes. Donc, que rend-il comme jugement à l'époque?
Aucun, parce que entre-temps, j'étais dépourvu d'avocat, donc j'ai demandé un renvoi de l'audience. suite à l'enquête qui avait été faite par le psychologue qui conclut officiellement une ambivalence de mon ex-compagne. Ensuite, l'école où était ma fille a fait un signalement inquiétant parce qu'il voyait qu'il y avait quelque chose de grave qui se tramait.
Entre vous deux.
Oui, entre nous deux. Mmh. Parce que mon ex-compagne était fuyante à l'école lorsque elle était intime et gentille avec moi en dehors de l'école. Donc ma fille était très perturbée. La maîtresse a donc fait un signalement inquiétant. L'ADAS, l'aide sociale à l'enfance, a fait donc une enquête. L'enquête a conclu fin juin 2021 que il y avait manifestement une emprise de la famille de mon ex-compagne sur elle-même. Et ce rapport a été étouffé par un juge des enfants par complaisance à cette famille qui est riche et qui est
Le souci, je veux dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous me dites que donc ce rapport a été étouffé par un juge parce que la famille est puissante et tout. Vous comprendrez, Cyril, que pour moi, c'est compliqué à comprendre et puis
à admettre,
parce que aujourd'hui, il y a une décision donc qui a été prononcée, et j'aimerais que vous me parliez de cette décision.
Vous ne voyez plus
votre fille depuis 11 mois. Pourquoi, en fait?
Parce que donc en janvier, le 14 janvier 2021, mon ex-compagne est allée au commissariat de police pour déposer plainte pour harcèlement contre moi, à raison de 10 000 SMS contre 3 000 de son côté.
10 000 que vous lui avez envoyé?
Oui.
Et 3 000 qu'elle vous a répondu?
Oui, complètement, parce qu'elle laissait son téléphone dans sa chambre.
D'accord, et ça,
c'est un accord entre nous.
Vous convenez que vous les avez envoyés, ces 10 000 SMS?
Bien entendu.
D'accord.
Bien entendu, c'était le seul moyen que je possédais pour pouvoir contacter ma femme, pour essayer de la raisonner, lui dire, écoute, c'est pas possible, tu vois bien qu'on t'a monté la tête, ta tante est venue sur les réseaux sociaux pour pirater mes comptes, et donc elle a posé plainte.
Vous avez été condamné pour harcèlement?
Complètement.
D'accord.
À 16 mois de prison avec sursis, avec des obligations de soins psychiatriques et une interdiction de séjour, d'être à la boule.
D'accord. Bon, et donc, on en est resté là. Donc,
non, pas vraiment, en ce sens que en début mars, la plainte a été posée le 14 janvier. J'ai été voir au commissariat en garde à vue. On m'a dit, bon, mais écoutez, arrêtez d'envoyer des SMS, sinon ça va partir pour vous.
Bah, oui.
Entre-temps, j'ai pris ma fille à la maison pour mon droit de garde.
Oui. Ça s'est bien passé.
Et ma fille, dans la voiture, pleurait. Elle m'a dit, papa, il faut que je te dise des choses. Et là, ma fille m'a raconté ce qui se passait, que sa grand-mère lui avait dit qu'il fallait plus qu'elle aime son papa, qu'elle avait entendu sa grand-mère dire à sa maman, tu ne lui rendras pas l'argent, il faut que tu lui fasses du mal, tu ne dois plus jamais aimer Cyril.
Cyril, je vais essayer de vous expliquer, parce qu'autrement, on va en avoir pour la soirée. Je pense... Et écoutez-moi vraiment attentivement. Avec tout ce que vous m'avez raconté ce soir, on ne peut que se rendre à une évidence et à une conclusion. C'est que c'est un véritable sac de nœuds, cette histoire, où sans doute les uns et les autres croient avoir détenir la vérité. N'empêche qu'à l'évocation de 10 000 SMS de votre part et de 3 000 de la part de votre femme, je dirais qu'on est peut-être un peu plus démesuré de votre côté que du sien, mais ces chiffres montrent tout de même 10 000 d'un côté, 3 000 de l'autre, que vous n'avez été ni l'un ni l'autre très raisonnable dans votre manière de communiquer, et sans doute, étiez-vous poussé dans cette communication secrète, visiblement par une famille qui se mêle d'une histoire où votre ex-femme, vous en avez convenu, est tout de même quelqu'un qui est déclaré comme déficiente et qui n'a pas vraiment un libre arbitre complètement à elle et qui est très influençable. Alors, ce que je vous conseillerais ce soir, Cyril, vraiment, et je vous demande de m'écouter, je pense qu'il faut que vraiment vous arrêtiez les SMS, que vous arrêtiez tout, tout moyen de communication. Je pense que ça a été bien trop loin, cette histoire, depuis assez longtemps. D'ailleurs, vous en avez fait les frais, puisque vous avez été condamné. J'ai un article devant les yeux que Florian vient de me communiquer, relatant votre condamnation et votre obligation à suivre des soins psychiatriques. J'entends, je ne dis pas que vous souffrez de quelque chose ou quoi que ce soit. Hein. Je n'ai pas assez d'éléments et je ne vous connais pas pour porter un jugement. Ce que je vois et ce que j'entends, par contre, c'est que... Enfin, m'évoque vraiment ce conseil. À partir de maintenant, si vous avez vraiment envie de récupérer la garde alternée de votre petite fille, si vous avez envie de récupérer un tant soit peu l'éducation de votre fille et qu'un juge vous permette de la voir un week-end sur deux ou de la voir pendant les vacances ou en tout cas rétablisse une situation un peu plus équilibrée, il faut vraiment, Cyril, que dès maintenant, vous ne cherchiez plus à rentrer en contact avec votre ex-compagne. Parce que le passé vous montre que ni l'un et ni l'autre, vous êtes raisonnable dans ces échanges. Donc, je pense que la meilleure solution que vous ayez, la meilleure solution qui s'offre à vous et le comportement le plus adéquat pour cette situation, c'est que vous montriez votre patience, votre calme, et que maintenant, vous attendiez une décision du juge pour que le juge prenne sa décision, mais dans le calme et la sérénité. Or, si et vous et la maman continuez à vous envoyer des SMS avec une famille qui s'occupe de tout ça par-dessus, et je vous crois encore une fois, mais vraiment, écoutez mes conseils, Cyril, et vraiment... Restez calme maintenant et ne dites plus rien. Il faut vraiment que vous soyez...
J'essaie de me battre tout seul.
Oui, mais
le problème, c'est que je n'ai pas d'avocat.
Oui, mais écoutez-moi, Cyril. Vous battre, je ne suis pas certain que vous employiez la bonne méthode. Parce que jusqu'à maintenant...
Mon but maintenant, ce n'est plus de revenir en couple. Mon but, c'est de protéger ma fille. Quand ma fille m'a fait ses déclarations alarmantes, perturbées, mon but, c'est de protéger ma fille. Alors... Le problème, c'est que aucune de mes plaintes n'ont été instruites.
Mais
je
parce
n'ai pas
que vous
d'avocat.
N'arrêtez pas les uns et les autres de porter plainte les uns contre les autres. Et je lis que ça n'arrête pas cette histoire. Donc, vous savez, à un moment, les policiers, comme les gendarmes, comme les magistrats, avec des gens qui portent plainte tous les deux jours, il y a un moment, la justice n'a pas que ça à faire non plus. Et elle finit par se rendre compte qu'on est dans une situation complètement inextricable. Donc, ce que je vous conseille, c'est que vous avez le droit à l'aide juridictionnelle, ça veut dire que vous avez le droit à un avocat commis d'office que vous ne paierez pas. Vous avez ce droit en tant que citoyen, donc utilisez ce droit. Et maintenant, je vous conseille de rester calme et d'arrêter de porter plainte contre visiblement une famille qui en plus, elle, a les moyens de se payer les bons avocats. Donc j'espère que vous respecterez mon conseil, et puis bien évidemment, tenez-nous au courant, vous avez le numéro de Florian, vous l'appelez pour nous tenir au courant de la suite des événements. Je vous souhaite bon courage et une bonne soirée, au revoir.